Alors, l'expérience spirituelle, mais c'est l'introduction d'un élément de piété personnelle dans la liturgie, comme souvent il y a en Orient, en Occident. Mais ce n'est pas le temps de la piété personnelle, la liturgie. C'est la piété de l'Église communautaire. On se prosterne par le dimanche, il faut se prosterner dans la liturgie de semaine. Il faut, notamment après l'épiclèse, après que le Saint-Esprit fut descendu sur le Saint-Esprit. Et même quand j'étais jeune, orthodoxe à 20 ans, on se prosternait en semaine devant le calice quand on venait communier. On peut. Et chez vous, tout le temps que vous prosternez, 50 fois par jour, vous direz, le métropolitain, enfin, le dimanche est le jour de la résurrection. Le temps liturgique, je n'ai pas voulu en parler dimanche dernier parce qu'on fêtait la mère de Dieu. La mère de Dieu, on était en bleu, couleur de la mère de Dieu bleu. Alors, un tout petit mot de l'avant. Vous voyez, on est en violet, je demandais la permission à notre évêque de laisser les vêtements de fête de côté, ça c'est la tradition de l'Orient, de se habiller de violet, parce qu'il n'est pas facile pour nous de nous dire on est dans un temps de pénitence, on est dans un carré, et il a béni, il n'a dit pas de problème. Qu'est-ce que c'est que cet avant? Avant, en latin, ça veut advento, ça veut dire avènement. C'est le temps de préparation au premier avènement. Le premier avènement, c'est Noël, c'est la nativité du Seigneur. Et l'Occident, depuis 2000 ans, a toujours associé premier et second avènement. On se prépare à fêter le premier avènement, et on se prépare au deuxième avènement réel. Lorsque le Christ reviendra en gloire, il y a deux avènements. Vous avez vu, quand on fait une offrande à l'autel, on commémore le deuxième avènement. Alors le premier avènement du Seigneur, il était dans la discrétion absolue. Personne n'était au courant de rien. Les Juifs ne sont pas venus. C'est dans une grotte cachée. Personne n'a voulu le recevoir. Il est venu dans l'humilité la plus absolue. Il annonce Pâques. Et il annonce le vendredi saint. La grotte toute noire s'annonce le vendredi saint. Et le deuxième événement, il reviendra entouré des neuf seres angéliques de la totalité du monde angélique, en gloire. Et il jugera les vivants et les morts. Tous les morts qui seront morts à cette époque ressusciteront, et c'est le jugement de l'humanité. Et c'est très très différent comme tonalité. Le Seigneur a annoncé, il a fait la prophétie de son second événement avec des mots terribles. Qu'on ne lit jamais dans le Byzantin, mais je vous incite vivement à les lire, sinon les quatre évangélistes. Relisez la prophétie de la fin des temps, c'est très très instructif pour nous préparer. Ça peut venir demain, la fin des temps. Seul le Père connaît le jour et l'heure, comme le Christ nous l'enseignait, parce que le Père est la source. C'est sa fonction hypostatique, c'est lui qui décide. On doit se préparer à fêter le Christ à Noël, et au deuxième avènement, intérieurement. Et quand je dis à fêter le Christ à Noël, je vous dis dès maintenant ce que je répète depuis 30 ans, je suis prêt. Noël n'est pas une fête de famille. On entre une famille divine. Et à Noël, on vient adorer l'enfant Dieu. La famille biologique après. On a tout le temps qu'il faut entre Noël et le jour de l'an pour s'occuper du biologique. Pierre, un réveillon païen, si je dis le jour de l'an. On a tout ce qu'on veut. Mais Noël, c'est l'Église, la crèche, c'est l'Église. C'est pas les cadeaux, c'est pas le foie gras, c'est pas la dame. Ça, c'est après. Noël, c'est recevoir l'enfant Dieu dans l'Église et dans la crèche de mon cœur. Alors, l'Église nous incite à nous préparer. Ne faisons pas Noël avant Noël. Tout le monde va commencer l'avant moula, les repas de Noël, les machins, les trucs, on se bourre de chocolat. On arrive à Noël pour une crise de foi. Mais non, il ne faut pas faire Noël avant que le Christ fût venu. C'est ça. C'est très différent du grand carême. Le grand carême, c'est le retournement complet de son être. On revient aux origines, aux sources du péché, et on fait une licence violente. Ça, c'est le grand carême. L'avant, c'est une autre tonalité. L'avant, c'est veiller. Tous les textes magnifiques de l'Occident ne cessent de dire « Réveillez-vous, ne dormez plus, il arrive, préparez vos lampes !» Vous vous souvenez des Vierges, 10, 5, sages. Toutes vierges. Ouais. Mais les femmes n'ont pas la réserve de l'huile du Saint-Esprit. Et quand les fous arrivent, elles ne sont pas là. Malheur à nous si je ne suis pas là quand ils me visitent, les fous célestes. C'est ça la veille. Ne dormez plus. Viens, viens. Tout l'été, viens, viens Seigneur, on attend que toi. Mais quand on se prépare à attendre la bien-aimée ou le bien-aimé qu'on a, on se fait beau, on se prépare, on réfléchit à tout ce qu'on va dire, on a chuté peur. Ben, on se prépare à accueillir l'enfant de l'enfant. C'est ça le carême de l'avant. Alors bien sûr, ne vous bourrez pas de choses très bonnes. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas que ce soit du tout alimentaire, mais c'est d'abord intérieur. Je m'apprête à recevoir celui que j'attends depuis toujours, mon bien-aimé, le Fils de Dieu. On a quand même vraiment rentré dans cette tonalité en nous souvenant qu'il y a deux géants dans l'avant. Il y a le prophète Isaïe, en Occident on lit tout Isaïe pendant l'avant. Hélas, on ne lit pas les prophéties dans la liturgie, dans le Bépisantin. Mais rien ne vous empêche à la maison de lire tout Isaïe. Et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le prophète de l'avant. Vous avez vu, ils vont défaire. C'est dommage, vous voyez, les évangiles que nous lisons sont tous temple et Pentecôte. On ne parle pas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il surgit dans le désert, vêtu de peau de chameau. Pourquoi le désert? C'est le dessein de l'homme sans Dieu, l'homme exclu du jardin de l'Église. Il est peau de chameau parce qu'on est devenu comme des bêtes, les êtres humains. Les prophètes sont prophètes par leur apparence extérieure, pas seulement par ce qu'ils disent. Il est repentez-vous parce qu'il arrive, il est proche. C'est ça la tonalité de l'avant. Jean-Baptiste, c'est le géant de l'avant. Repentez-vous. Il arrive le Messie. Je viens vous l'annoncer, il est derrière moi. Repentez-vous. Préparez-vous à l'avènement du Messie. Voilà ce que je voulais dire sur l'avant. Et s'il y a encore un peu de temps et de souffle, je tiens un mot sur le chemin de ruche. C'est un beau et terrible moment de l'évangile. Vous savez, des moments de l'évangile sont terribles. On se sent un peu coincé. C'est des moments comme ça, il y a des rencontres incroyables. La tradition nous dit que cet homme est jeune, mais on sait qu'il est riche. On voit parfois dans les livres, on dit un riche notable. Ouais. Cet homme est extrêmement bien. C'est vraiment ce qu'on appellerait un type bien. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour aller là-haut? Le Seigneur, il cite une partie du décalogue. Il cite les principaux points du décalogue, sauf un. Vous avez remarqué? Pas les deux plus grands commandements, mais il cite tout le reste. Allez, ça. Parce qu'il a amené pédagogiquement l'homme à voir que c'est les deux plus importants. Et cet homme fait une réponse incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains sur Terre qui étaient capables, qui sont capables de faire cette réponse. Seigneur, j'ai fait tout ceci depuis ma jeunesse. Des types comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire humaine. J'ai tout fait. C'était pour moi, il est parfait. Mais il veut plus. Ça, c'est le drame de l'homme, si vous voulez. C'est tout à fait nous, l'homme, qui veut plus. Alors là, le Seigneur va combler la lacune volontaire qu'il a faite de ne pas citer les deux premiers commandements. Et il dit, tu vends tout et tu me suis. C'est, tu aimes Dieu plus que tout. Alors il dit, c'est trop dur. Vous savez, souvent dans nos vies, on a des moments d'enthousiasme. Le Saint-Esprit nous visite et on a des moments d'enthousiasme fantastiques. On a envie tout de suite de nos ciels. Ça arrive à tous les chrétiens, ça arrive à tout le monde. Et puis dès qu'on fait quelque part, on se dit, qu'est-ce que c'est difficile. On se rend compte qu'on n'a pas, on n'est pas du tout à la mesure de l'enthousiasme qui nous habite. C'est un peu ça, je me brèche. Il part peu de nous. Et le Seigneur dit une parole terrible. Qui dit courage quand les apôtres, un entourage. Il dit que c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il utilise cette comparaison qui nous paraît écrasante. C'est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille que d'un riche entrer dans le royaume de Dieu. Mais il faut comprendre le sens profond. Il ne condamne pas la richesse en soi. Si ta vraie richesse n'est pas la divine Trinité, tu ne pourras pas entrer. C'est ça le sens. Qu'est-ce que c'est la richesse? Si la richesse absolue, la pire précieuse de ta vie, si ce n'est pas Dieu, comment tu peux faire pour entrer? C'est ça le danger de la richesse. C'est préférer quelque chose à Dieu. Ça nous arrive à tous. C'est très difficile d'arriver à ce niveau de sainteté qu'on puisse abandonner tout. Et les apôtres, ils sont chaos quand le Seigneur il dit ça. Il dit, mais s'il y a un gars comme ça, qui est parfait, il ne peut pas entrer maintenant nous. C'est le désespoir. Vous avez vu la tête des apôtres? Il dit, mais nous, Seigneur, on est sous terre là. Alors le Seigneur a cette parole de consolation, il dit, c'est impossible pour les hommes, mais Dieu peut tout. Et quand j'ai dit Dieu peut tout, je vous assure une chose. Je ne dis pas par humour. Dieu peut faire que le chat de l'aiguille soit immense et que le chameau soit petit. Parce que Dieu est tout puissant. Dieu peut tout. Mais je veux terminer sur une chose qui relève de notre psychologie humaine. Il faut remarquer que le Christ n'a pas demandé au jeune homme riche de le suivre. Alors nous, on veut toujours des tas de trucs, des hommes. Je veux ci, je veux ci, je veux ci. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, Dieu? Vous avez remarqué que le Christ n'a pas appelé le jeune homme riche. Mais il a appelé Pierre, il a appelé Jacques, il a appelé... Mais pas lui. Ça arrivait d'autres enfants de manger. On doit tenir compte de ce que Dieu veut pour moi et aime pour moi. C'est ça, ouvrir à Dieu. Parce que le Christ savait qu'il ne pouvait pas abandonner tout ce jeune. Mais cet homme était très, très, très bien. Il y a un autre évangéliste qui dit, le Seigneur le regarda, et l'aima. Ah, c'est fantastique, un truc comme ça. Il l'aima. Il a vu que cet homme était parfait. C'est inouï, un truc comme ça. Mais l'ultime, pas, il ne faut pas le faire. Le Christ, dans sa bonté, n'a pas appelé. Mais nous, on fait toujours plus. Alors, peut-être, ça peut être aussi un petit fil directeur de l'avant. Sachons être là où c'est un créable Dieu. Et à lui, c'est la gloire pour les siècles des siècles.
Disons-nous, notre Père, notre Esprit, disons-nous.